9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour camarades auditrices et auditeurs, Maître Serran est ravi, un, d'être encore de ce monde, hein, on le dit jamais assez, et deux, d'être parmi vous pour cette cinquième émission de l'année 2022. Vous aurez remarqué, mon cher Philippe, que je précise désormais toujours le nombre d'émissions.
Depuis
le commencement de cette nouvelle année, alors non pas pour envoyer à la direction de la radio le montant de mes émoluments, qui me serait dû, mais pour calculer le nombre de chocolats que vous m'avez offert, car disons-le aux auditeurs, chaque vendredi, vous avez la gentillesse de m'offrir ma boisson préférée, un chocolat pour me mettre en jambe, que je bois avec plaisir, quand évidemment je ne renverse pas la moitié de ma boisson, maladroit que je suis. Mais laissons ces histoires de chocolat de côté, évoquons les faits marquants de cette semaine, et d'abord la politique internationale et la fessée que le Mali a donnée à la France, et oui, fini l'arrogance de l'homme blanc qui débarque dans une région pour jouer le sauveur. J'avais d'ailleurs oublié que la France était engagée militairement au Mali depuis 2013 pour lutter, paraît-il, contre les djihadistes, mais changement de pouvoir au Mali est la surprise, car en règle générale, ce sont les Occidentaux qui décident qui va gouverner un pays africain et qui mettent à la tête de ce pays un gouvernement ami. Mais fait imprévu, ne voilà-t-il pas qu'une junte militaire non reconnue par la France arrive au pouvoir et annonce l'expulsion de l'ambassadeur de France, la France qui fut l'ancienne puissance coloniale. Mais dans ancienne puissance coloniale, il y a ancienne désormais. Le Mali veut coopérer avec la Russie, cette même Russie qui décidément est sur tous les fronts, puisque l'ambiance est toujours aussi tendue avec l'Ukraine, mais que l'Ukraine se rassure. La France a annoncé qu'elle enverrait des troupes en Roumanie, qui a une frontière commune avec l'Ukraine. Alors oui, je sais que cette information est une information tout à fait négligeable et n'aura aucune conséquence s'il devait y avoir un conflit armé sur le terrain. Politique intérieure maintenant, que se passe-t-il au sein du RN ? On fuit désormais le parti pour aller rejoindre Zemmour. Marine Le Pen trahie par sa propre nièce. Eh bien, croyez-le ou non. Alors, j'ai pas de sympathie, moi, particulière pour le RN, mais Marine m'a presque fait pitié quand elle a réagi au comportement de sa nièce. J'ai senti de la déception, voire même de la tristesse. Alors, pas de secret, on est souvent trahi par ses proches. Pitié redoublée lorsqu'elle a exhorté ceux qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs à se positionner maintenant ou jamais. Mais on peut se demander pourquoi Marine s'étonne d'avoir été trahie par sa nièce, alors même que cette dernière n'a pas hésité à éjecter son père du Front National qu'il avait fondé. Allez, oublions cette trahison politique pour vous inviter à appeler le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui devrait aujourd'hui annoncer peut-être sa candidature à la présidence de la République, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Il faut préciser le pays, Maître Serran.
Ben, pour l'Algérie.
Oui, voilà, d'accord. En Algérie, de l'Indonésie.
Voilà. C'est vrai que...
Oui. Mais pour le reste, elle a fait mesquine.
Ouais, mais c'est normal. Mais en même temps, fallait bien jouer cette carte-là.
Cosette. Ouais, voilà. Bon. Ouais. On n'est jamais trahi que par les siens. Sinon, c'est pas de la trahison.
Oui,
c'est pas les vôtres qui vous trahissent.
C'est vrai. Mais encore une fois, comme elle a elle-même trahi son père, donc de toute... Mais à partir du moment où vous trahissez déjà votre père, faut s'attendre à tout. Donc c'est pas les neveux ou les nièces. Voilà, enfin bon, la famille Le Pen.
Très bien, donc vous voterez aux élections cette année.
Je ne vote jamais. J'ai voté une fois dans ma vie.
Pourquoi vous parlez de politique
Je sais bien. J'ai voté une fois dans ma vie. Je sais plus quand, je vous l'avais dit.
Je crois que la dernière fois que vous avez voté, c'était pour Mitterrand.
Oui, c'est ça.
Donc ça devait être Mitterrand 2.
Oui, c'était Mitterrand 2.
88.
Absolument, ouais.
Mitterrand 2. Vous étiez encore un peu jeune.
Je sais. Ouais. Et depuis, je n'ai plus jamais voté. Voilà. Donc ma carte, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas quoi faire.
Et là, ça ne vous donne pas envie d'aller voter?
Non, mais alors, je m'en bats mais profondément. Ouais. Et encore une fois, au sein de ma famille, on est 5, je crois 4 ou 5 à pouvoir voter. Et personne ne vote. On est de très mauvais citoyens.
Vous avez votre femme et 3 enfants en âge de voter, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Voilà. Et personne ne vote. C'est-à-dire, je ne les motive même pas à aller voter. Voilà. Bon, je sais que c'est pas bien. Il faut voter. Il faut voter, mais je voterai le jour où je me présenterai moi-même à cette élection suprême. Bah quoi? Mais on a le droit de se présenter ou pas?
Ouais, on a le droit.
Bon, alors.
Maître Serran, dont vous poserez vos questions tout à l'heure à Maître Serran. On n'a pas eu de foie gras, nous, Maître Serran. Vous avez vu ça?
Non, enfin, dès le matin, en même temps, du foie gras, c'est un peu fort quand même, non?
Non. Je sais pas.
Ouais. Bah, vous avez le matin, c'est un chocolat. Oui, un chewing-gum aussi, ouais. On peut, mais du foie gras. Et puis, de toute manière, oui. J'aurais fait semblant d'en manger, et puis vous savez très bien que...
Non, c'est ça, mais voilà. De toute façon, vous n'avez pas eu besoin de faire semblant, parce qu'on ne nous en a
oui,
pas proposé.
Oui, déjà, par principe, c'est vrai qu'ils nous ont proposé un truc, mais ils sont tous partis.
Ils sont partis avec les boîtes. Bon, Maître Serran, on commence et on termine plutôt la semaine avec du droit du travail. Est-ce qu'on peut être licencié pour cause de maladie, absence pour maladie?
Le droit, je
pose exprès la question comme ouais, ça. Ouais.
Mais la question est bien posée puisqu'on a un principe. Alors, on le fait très rarement dans cette émission hein, de lire un texte puisqu'en règle générale tout le monde se fout des textes. C'est précisément l'article 1132-1 du Code du travail. Mais là, il est important parce qu'il dit quoi cet article ? Il dit qu'on ne peut pas être sanctionné, donc licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. Donc une fois qu'on pose ça, on se dit c'est un principe et si demain monsieur ou madame XY tombe malade, l'intéressé est protégé et puis elle pourra pas être licenciée.
Alors la question la plus générale, hein, c'était de savoir si on pouvait être licencié pour absence prolongée.
Ben voilà.
Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en durée l'absence prolongée ?
L'intérêt de, il y a un arrêt hein, qui a été rendu en mai 2021. Qui est venu préciser un peu cette notion d'absence prolongée. Déjà en 2001, la plus haute juridiction en France, la Cour de cassation, donc avait reconnu qu'il était possible de licencier quelqu'un qui était qui ne venait pas au travail en raison de son état de santé à partir du moment où, premier critère, ça désorganisait l'activité de la société. Donc ça, on peut l'entendre et on peut le comprendre. Et ensuite, il y a une décision qui a été rendue avec les faits assez particuliers. C'est une directrice d'établissement qui a été licenciée. Et on a considéré que quand vous êtes directeur d'un établissement et que vous venez pas au travail pendant X temps, ça peut avoir des incidences. Donc la Cour de cassation a reconnu, puisqu'elle a été licenciée par un conseil de prud'homme, ensuite elle a contesté, et le dossier arrive devant la Cour de cassation. La Cour de cassation donc a reconnu le premier critère en disant, bah oui, ça désorganise le travail. Donc ça, c'était déjà reconnu dès 2001. Mais la Cour de cassation a rajouté un nouveau critère. Et le nouveau critère, c'est de vérifier... Est-ce que la société a cherché à recruter quelqu'un pour pallier, donc a priori, à ce manque important qui est à l'origine de la désorganisation ?
Pallier ce manque.
À pallier, oui, ce que j'ai dit ?
Oui, on ne dit pas à ce manque.
Oui, alors autant pour moi. À pallier ce manque. Mmh. Et la Cour de cassation donc, a considéré qu'un timing de 6 mois, puisque la société a dit, écoutez, on a mis 6 mois pour essayer de retrouver quelqu'un, et on considère, alors ça peut sembler long, si la personne, en tout cas l'absence de la personne peut causer une désorganisation, mais la Cour de cassation a considéré que c'était un délai normal et qu'à partir du moment où une personne est souffrante, malade, qui ne vient pas au travail, que vous décidez de la licencier, encore une fois, non pas parce qu'elle est souffrante, malade, mais parce qu'il y a une désorganisation.
Oui, on joue sur les mots.
Mais non, on ne joue pas sur les mots, c'est-à-dire que... mais on peut l'entendre et le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a le droit qui défend le salarié, c'est légitime et c'est normal. Mais quand vous êtes directeur d'un établissement et que vous n'êtes pas là pendant plus de 6 mois, on peut imaginer quand même que ça pose une difficulté. Mais à partir du moment, en tout cas, c'est ce que dit la Cour de cassation, c'est ça, ce deuxième critère, c'est dire à la société, justifiez-moi que l'absence de cette personne était tellement importante que vous avez été contraint de recruter quelqu'un. Et la société a justifié qu'elle avait recruté quelqu'un dans un délai de 6 mois, et la Cour de cassation a considéré que c'était un délai tout à fait raisonnable, et qu'à partir du moment où la personne était licenciée pour désorganisation de la société, et que la société avait cherché une personne pour remplacer l'intéressé, dans ce timing, encore une fois, de 6 mois, qui peut sembler long.
Oui, mais alors, on peut la remplacer de façon, on va dire, ponctuelle. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, vous pouvez très bien recruter quelqu'un pour faire l'intérim.
Alors, c'est justement cet aspect-là qui va être, entre guillemets, discuté. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, comme on dit, c'est un CDI qui a été
signé,
conclu.
Et donc voilà. Pas un contrat déterminé.
On ne fait pas appel à une intérim, on ne fait pas un contrat à durée déterminée. On va vérifier, comme dit à l'autre, le sérieux de ce recrutement. Dans ce cas d'espèce, c'est une personne recrutée en qualité dans le cadre d'un CDI. Donc, on a considéré que c'était largement justifié et qu'effectivement, encore une fois, on peut l'entendre et le comprendre, qu'être licencié parce que vous êtes malade, ça peut poser difficulté, mais faut pas oublier qu'il y a une société derrière et ça dépend aussi du poste que vous occupez.
Oui, parce que là on parle d'une directrice. Vous êtes en train de combattre un cancer. Tranquille, on vous licencie parce que vous n'avez pas travaillé depuis 3 ou 4 mois.
Ben oui, mais encore une fois, évidemment, vu comme ça, vu sous cet angle-là...
Non, mais on est aussi quand même obligé de le voir sous cet angle-là.
C'est même légitime, encore une fois. Il ne faut pas oublier que le droit du travail s'est construit sur ça. C'est-à-dire qu'initialement, c'est destiné à défendre les salariés. Donc je l'entends et je le comprends, mais c'est vrai que la Cour de cassation va tenter de trouver une sorte d'équilibre entre la protection de la personne, la protection de l'individu, et la protection et la viabilité d'une société. Et quand vous êtes directeur et vous absentez, entre guillemets, sans limite, justifié, mais sans limite, sans être remplacé, ça peut poser aussi difficulté.
Alors, vous êtes licencié à quel motif et quelle est la procédure de licenciement et à quoi avez-vous droit à la fin de cette procédure?
Le motif, entre guillemets, est simple. Encore une fois, on considère qu'il y a une désorganisation. Donc
Mais le motif du licenciement, c'est quoi? C'est faute grave?
Non, il n'y a pas de faute, puisque si on invoque la faute,
alors, c'est quoi,
bien.
Ouais.
Si on invoque la faute, on va considérer que vous me licenciez parce que je suis souffrant, je suis malade. Mmh. Le motif est clair, ça va être un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'à partir du moment où ma boîte ne peut plus tourner parce que la directrice, le directeur est absent, donc légitimement j'ai le droit de vous licencier. Alors vous allez avoir droit vraiment au niveau indemnisation, entre guillemets, on va dire au maximum, puisque c'est pas une faute de votre part, mais c'est une procédure de licenciement, on peut l'éviter, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir...
Sur les bases les indemnités, donc c'est sur un licenciement économique, c'est
non,
sur les bases...
C'est...
C'est négociation.
Alors c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on peut d'abord éviter de se retrouver éventuellement devant un conseil de prud'homme, c'est-à-dire que il y a rien qui interdit de signer une convention et puis d'essayer, on va dire, de mettre fin à notre relation gentiment et tranquillement. Souvent, ça se passe comme ça. Vous voyez, cette possibilité de se séparer sans se retrouver devant un conseil de prud'homme parce que c'est long. C'est coûteux aussi, alors surtout pour évidemment le salarié. Donc souvent ça se passe comme ça, mais si ça se passe pas comme ça, je vais vous licencier en invoquant l'argument entre guillemets sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire c'est le licenciement classique. Votre absence fait en sorte que vous désorganisez ma société, et je le redis, vous aurez le droit au maximum de vos indemnités si, alors je dis n'importe quoi, si vous êtes chez moi depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 3 ans. Le code du travail est très précis au niveau des calculs. Il y a des pourcentages qui sont très précis.
Mais ça va pas chercher loin.
On
n'est pas dans le cadre d'un plan social.
Non, c'est pas sur un plan purement pécuniaire. C'est pas le licenciement qui entre guillemets, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme-là, qui entre guillemets peut vous rapporter. Bon, le terme n'est pas forcément approprié. Rapporter le plus, forcément. Mais, en règle générale, quand c'est comme ça, il vaut mieux, autant que faire se peut, éviter les litiges et se retrouver, encore une fois, devant un conseil de prud'homme, parce que c'est toujours le salarié qui est perdant, en tout cas en termes de timing. C'est très long d'avoir une date auprès d'un conseil de prud'homme. Ensuite, il y a éventuellement une possibilité d'interjeter appel, donc ça peut prendre des années. Donc autant que faire se peut, essayer de trouver un terrain d'entente et que chacun s'y retrouve à minima.
On fait appel de ces décisions ou pas?
On peut faire appel de ces décisions. Quand on est, alors c'est pas une généralité, mais quand on est une société de, entre guillemets, de mauvaise foi, on n'hésite pas à interjeter appel. Vous savez, indépendamment de l'aspect financier, interjeter appel pour un salarié, psychologiquement, c'est difficile, parce que déjà, devant le conseil des prud'hommes, ça dure X temps, vous avez une décision, et pour peu que cette décision vous soit favorable, et qu'en face, vous apprenez que la société a interjeté appel, ça va prendre encore plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années. Donc, les litiges qui sont toujours en suspens, parfois, psychologiquement, c'est difficile à gérer pour les salariés.
Bien, ça c'est un sujet quand même pointu et douloureux. Hein. Il faut dire que finalement, vous vous retrouvez, donc vous avez un combat contre la maladie. Ensuite,
bien sûr.
Je vois pas très bien comment vous pouvez vous retrouver dans une dynamique pour retrouver un emploi.
Complètement.
Derrière.
Mais c'est, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, le raisonnement, entre guillemets, de la Cour de cassation, c'est d'essayer de trouver un juste milieu. C'est-à-dire simplement dire, je vous licencie parce que vous désorganisez la société, on a considéré, alors c'est un critère qui fonctionnait avant, mais on a considéré que c'était plus suffisant, à charge maintenant pour la société de prouver que mon activité est tellement désorganisée, je suis obligé de recruter quelqu'un pour l'instant dans ce timing de 6 mois.
Vous posez vos questions d'ordre juridique dans un instant à Maître Serran. Toutes vos questions 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, vous répondez aux questions des auditeurs. Alors, les auditeurs ne peuvent pas vous voir et c'est bien dommage parce que vous êtes allé chez le coiffeur.
Absolument. Et mais comme ça, spontanément, vous ne l'avez pas remarqué, ça
si,
m'a un peu
vu
vexé.
Ce matin, quand je vous ai vu rentrer
d'accord,
dans le
bureau, j'avais vu que j'avais plus de cheveux au niveau des yeux.
J'ai dit, il s'est rasé.
Voilà. Non, mais ça dit, c'est vrai. Hein bon. Je fais partie de ceux où vous mettez la tête à l'envers, c'est la même chose. C'est ça qui est un peu extraordinaire.
D'accord. Et avec le temps, vous avez une réduction ou pas?
Non, même pas. Non, non, mais je sais que c'est une arnaque. Je paye, je lui dis c'est 14 euros la coupe, puisque ça lui prend vraiment montre en main, même pas 2 minutes 30. C'est une arnaque.
Il met un coup d'éponge.
Même pas.
Il vous lave pas les cheveux.
Il souffle. Non, non, non. Bon, il me lave pas les cheveux. Vous les lavez quoi? Donc, il pourrait, même pas. Il prend ses ciseaux, ça prend 30 secondes, et puis
ouais, cool.
Et je sors coiffé. 14 euros.
Ouais. Bon, c'est une rente. Hein.
Ah bon?
Alors, on a Moustapha de Toulouse qui nous appelle, Maître Serran. Bienvenue, Moustapha. Coucou. Moustapha.
Allô? Oui, vous m'entendez?
Très bien, on vous écoute, Moustapha.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Moustapha.
Excusez-moi. Bonjour. Moi, j'aurais juste une petite question à vous poser, en fait, parce que je comprends pas trop. Ça concerne la pension alimentaire. Ma question, c'est est-ce que c'est normal qu'elle augmente tous les ans? Apparemment, on m'a parlé d'une indexation.
Oui, il y a une indexation. On calcule, en fait, la pension alimentaire sur le coût de la vie. Donc, tous les ans, ouais. Et d'ailleurs... Si vous avez reçu la décision, il y a au niveau de la dernière page, on vous explique comment calculer tout ça. Alors, je vous cache pas que très souvent, quand il y a entre guillemets, il y a pas de litige entre monsieur et madame et que monsieur paye la pension alimentaire, très souvent monsieur, encore une fois, alors je dis monsieur parce que dans 99% des cas, c'est monsieur qui est condamné à ça. Il continue de payer le même montant qui a été prononcé par le magistrat. Mais quand parfois il y a des litiges ou alors lorsque le dossier passe entre les mains d'un huissier de justice, ben on va vous calculer l'augmentation régulière. Ça c'est comme les loyers aussi. Donc voilà, ça c'est entre guillemets normal. Hein. Il y a pas de difficulté là-dessus. Et si vous payez le montant qui est indiqué dans le jugement sans régler ce qui était prévu au niveau des augmentations, vous pouvez faire l'objet d'une procédure de recouvrement. C'est tout à fait possible.
D'accord, parce que bon, j'ai remarqué au début, j'étais à peu près à 240 euros. Et là, excusez-moi, je suis dans le travail, hein, du bruit là, je m'excuse. Hein. Donc, et là, depuis janvier, en fait, elle a augmenté de 7 euros. Voilà. Donc, vous me dites, vous, apparemment, c'est un peu normal.
Ah oui, non, c'est voilà, il n'y a pas entre guillemets de mauvaise surprise en la matière. C'était initialement
prévu. C'est même pas un peu normal, c'est normal.
Voilà, là, c'est juste normal. Après, monsieur, vous savez, les décisions en matière de pension alimentaire, les décisions qui concernent les enfants, en droit, on dit que ce sont des décisions qui sont provisoires. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que votre situation a changé, alors je sais pas, votre salaire est moindre ou alors les revenus de madame sont plus élevés qu'avant la procédure, vous avez toujours la possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales et vous pouvez même le ressaisir par un simple recommandé avec accusé de réception. Hein, l'avocat, à ce stade-là, n'est pas obligatoire pour demander une révision de la pension alimentaire. C'est tout à fait possible.
Oui, d'accord. Ok, d'accord, ça marche. Ben, écoutez,
Moustapha, qu'est-ce que vous faites comme métier, Moustapha?
Je conduis des grues à Tours, quoi. Voilà, c'est pour ça
d'accord,
que vous
d'accord, mais alors, il y a des gens qui sont en train de vous parler avec la radio, c'est ça?
Exactement, ouais. D'accord. Exactement.
Bien.
Exactement. Donc, c'est pour ça que je voulais juste m'excuser par rapport aux grues, là, qu'il y a autour de moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, on va payer, et puis voilà.
Hein. Merci à vous, Moustapha.
On va payer, oui.
Bah ouais. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci Moustapha. Alors nous avons Nordine au 01 53 48 3000. Nordine, bienvenue.
Bonjour. Moi j'ai juste une question à poser parce que je travaille dans une entreprise. Il y avait une clause de confidentialité et je voulais et bon on va dire que bon j'ai été licencié. Je voulais savoir si j'y ai droit ou pas à cette clause de confidentialité ou pas.
De confidentialité, c'est ça?
C'est
une clause qui a une contrepartie financière, monsieur, dans votre contrat. C'est dites clause de confidentialité. Parce que la clause de confidentialité, par principe, c'est le fait de dire, je vais pas dévoiler des éléments. Alors, si demain je vais postuler auprès d'une autre société qui a priori exerce ou exercerait la même activité, voilà, je vais pas dévoiler des informations qui, par définition, sont confidentielles. Mais est-ce que dans votre contrat, il y a une contrepartie financière ?
Oui, 500 euros par mois. Pendant 5 ans.
Ah, il est long. Il n'y a pas de difficulté dans ce cas-là, monsieur, à partir du moment où c'est contractuel. Donc, vous pouvez évidemment l'invoquer. Pourquoi? Est-ce que vous avez eu un retour négatif de la part de la société?
Ben, j'ai attendu un mois. Au bout d'un mois, je lui ai envoyé une lettre recommandée en lui expliquant les clauses du contrat. Et puis ensuite, il m'a mis « je vous libère », tout simplement. Je vous libère.
D'accord, mais le contrat est libellé de manière simple, c'est-à-dire qu'on dit quoi? Il y a une clause de confidentialité et puis il y a un montant, vous dites 500 euros par mois, en contrepartie du respect de cette clause.
Voilà, oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça.
Ben écoutez, là comme ça, monsieur, spontanément, je vois pas ce qui s'oppose à mettre en application ce contrat. Encore une fois, si c'est contractuel, à charge pour la société de le respecter. Et puis, si vous avez l'impression, soit on vous répond pas, soit on vous répond de manière négative, il y a rien qui vous interdit de saisir les prud'hommes, peut-être même en référé. Le référé, c'est une procédure d'urgence. Alors, en droit, on dit que c'est une procédure de l'urgence et de l'évidence. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de doute possible sur vos demandes. Mais si c'est contractuel, je vois pas où serait le doute. Donc, ça vaudrait peut-être le coup, soit de les relancer, de les menacer en disant, à défaut de retour, j'irai saisir le conseil des prud'hommes, ou alors vous saisissez les prud'hommes directement.
Malgré que je suis resté 8 mois dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas marqué de délai, il n'y a aucun délai.
Non, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'après, je sais pas si votre contrat prévoit des dispositions particulières, mais s'il est indiqué que en contrepartie de cette clause de confidentialité, vous avez un montant qui est pris en considération chaque mois, le fait d'être dans la société depuis 4 mois, 8 mois ou 10 ans n'a pas ou n'aurait pas d'incidence. Encore une fois, sous réserve de ce que vous êtes en train de me dire.
Non, mais je vous dis exactement ce qu'il y a.
Si c'est pas s'il n'y a pas un timing qui est évoqué, le contrat s'applique de manière pleine et entière.
D'accord. Bon parce que je lui ai envoyé le courrier recommandé. Bon, il m'a répondu 15 jours après en disant qu'il me libérait tout simplement. Voilà.
Peut-être lui rappeler. Alors il l'a évidemment, mais vous lui renvoyez le contrat avec un petit coup de stabilo sur la clause concernée en lui demandant donc peut-être de l'appliquer. Et à partir de là, encore une fois, si c'est une réponse négative, vous pouvez saisir. Et puis si vous considérez qu'à partir d'un certain temps il n'y a pas de retour, vous saisirez les prud'hommes en référé.
Je peux réclamer les 5 ans. Quelle que soit la durée.
Je me base sur ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres dispositions particulières dans votre contrat, ça s'applique à la lettre.
Justement, il n'y a aucune. Hein, c'est marqué,
donc ça s'applique à la lettre. Il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Bon, ok. Merci, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, Nordine.
Bonne journée.
Alors, Rachid est avec nous au 01 53 48 3000. Rachid, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, maître Serra.
Bonjour, Rachid.
Oui, je voulais savoir, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Voilà, j'ai été licencié pendant un accident de travail. Et je voulais savoir comment ça se passe.
Le motif qui est invoqué, monsieur, quand on vous a licencié, c'est quoi?
M'a licencié comme ça, normal. J'ai eu un recommandé. Je devais reprendre le travail le 4 avril. C'était en 2019, le 4 avril 2019, il m'a licencié le 31 mars.
Donc vous avez été d'abord convoqué, entretien préalable.
J'ai été convoqué le 27. J'ai été convoqué le 27 mars au bureau, à la société, j'y étais. Après, il m'a dit, je vais réfléchir et tout. J'ai dit, moi, je suis en accident de travail, je reprends que le 4.
Ouais.
Et le 31 mars, il m'a envoyé un recommandé disant, oui, vous êtes licencié, vous ne faites plus partie de la société.
D'accord, mais est-ce qu'il y a un motif, alors peut-être un motif pas sérieux, mais est-ce qu'il y a un motif qui est invoqué par la société? C'est motivé comment?
Il n'y a pas de motif, c'est juste que j'étais licencié normal. Elle me dit, oui, vous ne faites plus partie de la... Parce que j'ai eu un accident de travail au dos. Comme je suis
d'accord.
Dans le transport. J'ai mon dos qui a cassé. Alors,
écoutez, là, comme ça, spontanément, enfin, s'il n'y a pas plus d'infos, rien vous interdit de le contester. C'est à charge pour la société d'apporter des éléments particuliers. Mais si vous me dites qu'il n'y a pas de motivation spéciale sur votre courrier de licenciement, j'ai du mal à comprendre le pourquoi du dit licenciement. Mais dans ce cas-là, monsieur, il va falloir contester et puis saisir les prud'hommes. Et je vous dis, la société aura l'obligation à ce moment-là d'expliquer ou d'apporter les motifs, les raisons qui selon eux, auraient justifié le licenciement.
Oui, mais est-ce qu'on a le droit de licencier une personne en accident de travail?
Non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que au moment où je vous parle, c'est-à-dire que si oui. Vous me dites j'ai un accident de travail et on me licencie, non, j'ai pas le droit de vous licencier parce que vous êtes en accident de travail. Donc ça, voilà, c'est clair. D'accord. Après, à ce stade-là, vous savez, des fois, on est à l'abri de rien. C'est-à-dire que, puisque vous me dites qu'il n'y a rien qui apparaît, vous allez contester peut-être, sous toute réserve, peut-être que la société va invoquer quelque chose de particulier. Mais en règle générale, quand on a quelque chose de particulier à invoquer ou à reprocher aux salariés, on le met. Dans le cas, on le dit normalement dans le cadre de l'entretien préalable, mais c'est indiqué dans la lettre de licenciement. Mais si votre question c'est dire je suis en accident de travail, est-ce qu'on peut me licencier là comme ça spontanément, non.
D'accord. Ok.
Mais d'accord. Encore une fois, contester, c'est-à-dire que vous avez été licencié quand?
J'étais en 2019.
Ah monsieur, on est en 2021. Pendant le Covid. Qu'est-ce qui fait que de 2019 à 2021, vous posez la question?
Bah, je voulais savoir, c'est tout, parce que comme j'ai eu, je voulais juste poser une question, voir comment ça se passe, parce qu'avec pendant le Covid, je voulais attaquer au prud'homme, mais ils étaient le dossier ne passait pas par rapport au Covid et tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séance, il n'y avait encore rien du tout, il fallait attendre. J'ai été voir un avocat, et l'avocat m'a dit ouais, pour l'instant on peut rien faire tant que il y a le Covid. Les démarches seront un peu dures.
Alors, il y a eu un moment, et notamment concernant le premier confinement, où effectivement, il y a eu des textes, des décrets, qui ont suspendu tous les délais pour pouvoir engager des procédures.
J'ai été licencié au mois de mars, quand le Covid a commencé.
D'accord.
Le Covid a commencé le 1er mars.
Voilà, moi, de ce que vous êtes en train de me dire, je vois pas, encore une fois, comme ça, spontanément, un motif sérieux qui aurait pu justifier votre licenciement.
Est-ce que je peux vous contacter?
Ah oui, bien sûr. Mais vous m'avez pas dit que vous aviez un avocat?
Non, je me suis juste renseigné, j'ai pas d'avocat.
D'accord, ok. Oui, je peux donner mon numéro là tout de suite, monsieur.
On vous le rendra, maître Serran, donc d'accord. Allez-y, si vous le donnez.
D'accord. Ouais. Alors, 06 62... Oui. 58 59 64 06 62 58 59 64.
Mais celui de Probuchon, il me connaît.
Ah ah. Ah ouais, d'accord, c'est un pote à vous.
Non, il me connaît parce que je suis un ancien, quand je l'ai appelé, j'appelle de trappe.
Ah oui.
C'est tout ce qui est. Voilà.
D'accord. Oui. Ah oui, oui.
Le cri était particulièrement aigu, non? C'était quoi cette surprise?
Non, mais attendez, parce qu'il me dit, il me connaît. Ouais. Je me suis dit, voilà.
Ouais. D'accord. Mais monsieur est solvable ou pas? Parce que c'est une question qui est pas négligeable.
C'est la vraie question pour maître Serran.
Non, il n'y a pas de souci. Ben, je vous appellerai, maître Serran.
Avec plaisir.
Rachid, maître Serran attend votre appel.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Plaisir. La suite de vos appels, si vous avez des questions à poser à maître Serran. Vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, car vous êtes très en parole ce matin, maître Serran, les éditeurs. J'avais un autre mot qui me venait parce que Nathalie Bouga était dans ce studio et je me suis arrêté à temps. Vous voyez, comme quoi.
Bravo.
Alors on a Sophia qui est avec nous. Sophia, bienvenue. Coucou Sophia.
Oui.
Oui. Alors ça commence bien. Sophia a dit oui déjà. Bon, Sophia.
Oui, je vous entends. Vous m'entendez?
Très, très bien. Est-ce que vous avez...
Ah, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas dans l'antenne. Oui. Bonjour, Maître Serin. Bonjour.
Bonjour, Philippe. Sophia.
Voilà, moi, j'ai une histoire un peu... Bon, Philippe, il a déjà entendu, un peu compliquée. Et je suis en train de me battre pour, si vous voulez, pour faire le nécessaire. Malheureusement, j'ai un fils qui est malade, qui est schizo. Il a reconnu tout ça depuis petit. Et il a fait des violences sur une copine, une des copines. Donc ça fait la deuxième fois. Il a été interpellé violemment à domicile. Et en fait, je comprends pas comment la police est venue, parce que normalement, ils auraient pas dû me casser la porte, ils auraient dû me sonner. Je voulais savoir s'il y a une sommation avant de casser la porte. Est-ce que c'est normal qu'on la casse tout de suite au moment où je dis que j'arrive?
Ah, madame, c'est en fonction de... Il n'y a pas de sommation particulière, c'est-à-dire que la police va réagir en fonction de l'urgence ou pas d'une situation. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'il y a une urgence absolue, vous imaginez bien que peut-être simplement le temps de faire une sommation, ça pourrait être trop tard. Donc,
oui, mais
ça
va être
en fonction de l'urgence de la situation.
Oui, il y avait d'urgence, j'étais pas au courant de ce qui s'est passé. C'est juste savoir pourquoi, parce que j'en ai parlé un peu, j'ai pas les mêmes avis. On m'a dit qu'il y avait un peu d'abus, donc je vais savoir si je me retourne contre eux, la police, parce que moi, ils m'ont déjà mis en enjeu, donc j'étais pas armée. Ils ont fait, mon fils était dans l'étage, ils l'ont mis en enjeu, il a failli sauter du cinquième étage, donc après, je vous dis pas la scène d'horreur, on a tout fait pour qu'il évite de sauter, mais la police, je trouve qu'elle a fait un des policiers a exagéré. C'est-à-dire, l'a beaucoup énervé, en sachant que lui, il était déjà malade sous médicaments, sous l'emprise de médicaments. Il était schizo, bien sûr.
Mais là, il y a une question qui se posera si, d'abord, vous pouvez vous retourner contre les uns et les autres, il n'y a pas de difficulté, mais est-ce que les policiers connaissaient précisément l'état de santé de votre enfant à ce moment-là? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est très compliqué.
Non, ils ne connaissaient pas. Par contre, la fille en question, elle connaissait, et je l'avais mis en garde. Je lui ai même demandé de fuir, parce que le matin même où je l'ai vu pas bien, et la fille n'a pas voulu partir, parce que je lui ai dit, attention, je le vois, il n'est pas bien. Il faut partir, elle n'a pas voulu. Donc je regrette qu'elle soit restée à la maison, parce que si j'avais fait partir, on m'a dit que j'aurais dû la... J'ai dit que c'est pas possible de prendre une fille, de la jeter comme ça.
Si elle est chez vous, madame, si, vous pouvez la jeter comme ça, elle est chez vous. Elle vous a pas
voilà,
braqué
et pour on rester m'a dit, à la maison. Oui, alors, pas
après, être après, au niveau des mots, voilà.
Non, parce que je l'avais prévu.
Mais attendez, parce qu'il faut au moins, on va revenir à la question initiale. Donc finalement, est-ce que la police... Alors, il venait perquisitionner, il venait récupérer votre fils, c'est ça la police?
Justement, il y a un grand problème.
La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont droit...
Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, regardez. Ils m'ont dit, police, au début, j'ai fait cette pauvre police. Ils m'ont dit, après, il y a un voisin mort. J'ai dit, ah bon? Ah, moi, j'étais choquée, parce qu'ils m'ont dit, un voisin mort. J'ai dit, attendez, je vais venir, le temps que je mets une veste. Et j'ai dit, j'arrive. Il y a mon fils qui entend qu'il y a la police. Lui, il est dans l'étage. Il me dit, maman, c'est la police? Je dis, oui, c'est la police. Je dis, ouvrez. Il me dit, il faut ouvrir. Donc, j'ouvre. Et là, ils nous mettent en manger. Ils nous disent, un voisin mort. Et en fait, compte, à la fin, j'ai appris que c'était faux. Il n'y avait ni police. Pourquoi ils ont perquisitionné? Pourquoi ils cherchaient quelque chose? Il n'y avait pas de drogue. Ils ont trouvé, à part une bouteille d'alcool.
Madame, qu'ils n'aient rien trouvé, c'est une chose. Mais les policiers ne débarquent pas chez les gens comme ça un matin en se disant, tiens, on va aller chez X ou Y pour perquisitionner. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande, une information. Alors, je ne sais pas si c'est un juge d'instruction. Je ne sais pas si c'est des voisins qui se sont plaints. Je ne sais pas si c'est un procureur de la République qui a dirigé tout ça. Mais enfin, vous imaginez bien que les policiers ne débarquent pas chez n'importe qui.
Qui s'est déplacé chez eux, qui m'a dit, je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment, qui est venu se présenter, mais ne m'a pas parlé comme quoi la fille était en danger. Il ne m'a rien dit. Juste qu'une femme s'est présentée. J'ai dit, ah bon? Et ils ne m'ont pas dit, je ne peux pas vous dire qui. Je suis désolée, madame, je vous ai menti. J'aurais pas dû vous dire qu'il y avait un voisin mort, mais c'était pour vous ouvrir la porte. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont cassé la porte. L'assurance ne la rembourse pas. Moi, j'ai pas les moyens. Et deuxièmement, lui, il est schizo, il est parti en état de suicide, vraiment à l'hôpital. Il était injugeable. Ils l'ont quand même condamné, malgré qu'il est injugeable.
Mais madame, s'il a été condamné, enfin, moi, je comprends votre position, mais s'il a été condamné, c'est que le magistrat a considéré qu'il pouvait relever d'une sanction pénale. Après, vous avez le droit de pas être satisfaite et de contester la décision. Mais en tout cas, manifestement, il a pas été déclaré irresponsable.
Sur la porte, Maître Serran.
Non, sur la porte, il n'y a pas, enfin, un peu, comme dirait l'autre, écrire et puis non, demander si, à être indemnisé, mais ça ne passera rien.
Si on défonce votre porte et qu'on vous la casse.
Non, mais vous savez, en règle générale, je le redis, les policiers, ils jouent pas les bourrins, c'est-à-dire, on vient pas casser la porte pour casser la porte, mais si vous ouvrez pas et si, si j'insiste, je suis derrière et vous ouvrez pas, oui, au bout d'un moment, il y a un stade supérieur et puis on défonce la porte parce qu'il y a, manifestement un danger potentiel.
Voilà, Maître Serran, la question c'était de savoir si vous n'ouvrez pas, est-ce que les policiers sont en droit de défoncer la porte ?
C'est encore une fois, mais j'allais dire c'est leur mission, c'est-à-dire que si on fait appel à eux ou s'ils interviennent, c'est qu'il y a un danger quelque part. Je vous demande d'ouvrir, vous ouvrez pas, bien sûr, je peux défoncer la porte. Bon, alors voilà. Après, oui, il faut pas venir se plaindre en disant ma porte est cassée. Mais je le redis, hein, franchement, ou alors c'est rarissime où il y aurait des excès. Alors je sais que c'est parfois à la mode de dire que les policiers sont un peu légers dans leur intervention, mais dans la grande majorité, ils font leur boulot correctement. Ça, on peut au moins le reconnaître. Donc on n'est pas dans un pays où on vient vous défoncer les portes pour rentrer chez vous.
Voilà, Samia, merci pour votre appel. On a Rabia qui est avec nous. Rabia, bonjour et bienvenue. Rabia.
Bonjour Philippe.
Bonjour Rabia.
Bonjour Monsieur Maître Cyrano.
Bonjour Rabia.
Moi j'ai juste une question, c'est mon fils qui la propose. En fait il travaille, il n'a pas pu vous rappeler. Voilà, il est marié il y a à peu près 3 ans avec une Algérienne. Bon, ils sont mariés, elle est revenue en France. Et en ce moment, il s'entend très très mal. Il s'entend vraiment très mal. Et le problème qui se pose, c'est pas elle, c'est sa famille. Sa famille leur monte la tête beaucoup contre mon fils, contre moi. La fille, quand on la voit, quand on lui parle, un jour elle est bien, un jour elle est pas bien. Et le problème qui se pose, c'est que mon fils, il n'en peut plus vivre cette vie. Une femme qui ne sait pas, ce que c'est un foyer, qu'il faut laisser personne rentrer entre eux. La maman, elle a beaucoup d'influence sur la fille. Mon fils qui se pose maintenant, il n'en peut plus vivre avec elle. C'est à cause de la mère, malheureusement. Et il a beaucoup peur que la femme, elle serait expulsée, vu que ça fait pas longtemps qu'elle est en France. Et c'est grâce au mariage qu'elle a eu ses papiers que mes petits-enfants se trouvent en Algérie. Et voilà, c'est ça le problème qui se pose, quoi.
Ils ont des enfants en commun ?
Ils ont des enfants en commun. D'accord. Ils ont un enfant de 8 mois, une petite fille.
Mais qui est au pays ?
De 8 mois, oui.
Madame non, n'est non, pas venue avec l'enfant.
Là. Non, ils sont là en France, les enfants. Elle vit avec mon fils.
D'accord.
En fait, mon fils, c'est un franco-algérien. Mon mari, c'est un français. Ouais. Moi, je suis d'origine algérienne. Et voilà, son papa, il souhaitait juste qu'il se marie avec musulmane, une femme qui soit musulmane. Peu importe le pays, il s'en fout. Et voilà, le problème qui se pose, c'est que sa famille, ils ont beaucoup d'influence sur elle parce qu'elle est trop naïve. Et on a pu parler avec elle, je sais pas combien de fois. Elle comprend pas. Malheureusement, elle vient plus chez moi. Vraiment, voilà, c'est ta mère.
Mais alors, votre fils, il veut faire quoi, madame, à part peut-être supprimer la belle famille, mais est-ce qu'il veut se séparer de madame? Qu'est-ce qu'il veut faire?
Lui, il veut vraiment se séparer, mais vraiment. Ça lui fait vraiment mal de se séparer parce qu'il ne trouve pas de solution avec elle. Elle est beaucoup en fiance avec la famille.
D'accord.
Mais voilà, c'est une femme qui ne peut pas prendre des décisions, qu'elle ne peut pas protéger son foyer, quoi. Et mon fils, il n'en peut plus avec elle de vivre comme ça, quoi. Et il se pose la question si demain, il dépose un dossier pour un divorce, que les enfants ils se trouvent avec elle en Algérie, vu que ça fait pas longtemps qu'elle est sur le sol français.
Non, enfin, madame, si la question c'est je divorce de cette femme, est-ce qu'elle va être expulsée? Évidemment que non. Si la question c'est je divorce de cette femme, est-ce que le ou les enfants seront a priori avec la mère? La réponse est oui. Mais si l'inquiétude c'est dit on sait jamais, je divorce et la France va l'expulser, donc si elle l'expulse, elle va prendre les enfants, non, ça n'arrivera pas.
D'accord, d'accord. Non, on comprend très bien que les enfants ils sont trop en bas âge, voilà, qu'ils soient avec leur mère. Nous, on veut pas l'enlever de sa mère. Hein.
Bon, bah, y a pas de difficulté, mais elle sera pas expulsée parce que votre fils veut divorcer. Là, y a pas de problème là-dessus.
D'accord. Et elle, par contre, elle veut pas divorcer. Elle veut pas changer.
Ça change rien, ça, madame. C'est, souvent, on nous dit, dans un couple, il y en a toujours un qui dit, moi, j'ai pas envie de divorcer. La loi est claire. De toute manière, on peut, en tout cas, monsieur ou madame, peut décider de ne pas divorcer. Le magistrat finira par prononcer le divorce. Donc, on n'a pas besoin de l'accord des deux pour qu'une procédure de divorce puisse aller jusqu'à son terme.
D'accord. La cause, est-ce que c'est une bonne cause de dire que cette femme, elle peut pas gérer elle-même, elle a toujours quelqu'un derrière.
Non mais madame, ça, j'entends bien, mais ça vous pouvez pas le prouver. Ouais, comment voulez-vous prouver que c'est sa mère ou son père ou la famille qui tirerait les ficelles? Vous voyez, le couple est marié, oui. Ils ont des enfants. Enfin bon, dans ce cas-là, votre fils aurait peut-être dû se rendre compte avant de faire des enfants que madame pouvait éventuellement poser difficulté. Mais ça passera pas comme argument. Après, il peut y avoir une sorte d'accord commun pour se séparer, mais vous me dites que madame ne veut pas. Et après, il y a une autre option. C'est-à-dire que s'ils vivent pas ensemble, au bout d'un an, de toute manière, c'est un argument qui peut être invoqué pour que le divorce soit prononcé. Là, pour l'instant, ils sont dans le même domicile.
Oui, ils sont dans le même domicile. Excusez-moi, maître Sirène, il a l'enregistrement qu'elle disait, si ma mère, et moi madame, qu'elle disait ma mère, j'ai le droit de l'appliquer.
Non, mais j'entends bien, c'est souvent, les clients nous disent, j'ai l'enregistrement de ceci ou là de cela. Non, ça, on oublie, ça passe pas. Et puis, j'ai pas enregistré quelqu'un, entre guillemets, en cachette, sans son accord. Donc, il peut oublier et même effacer ses enregistrements, ça changera rien.
C'est pas recevable.
Non.
D'accord. Ok. Il n'y aura pas d'expulsion. Hein.
Encore une fois. Sauf s'il y a un mort, un policier à la gorge. Mais non, il n'y a pas d'expulsion. Si c'est, je me sépare, en plus, il y a des enfants à restaurer sur le territoire français. Donc non, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Il n'y a pas de risque. Non, le divorce ne changera pas.
Non, il n'y a pas de problème là-dessus.
C'est ce qu'on veut, nous. Louis, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'elle se trouve en Algérie avec les enfants. Et puis, voilà, et lui, il est là, c'est un peu trop loin, et puis il pourra pas, quoi. Et malheureusement, tout ça, c'est... Moi, je dis à tous les parents, laissez les enfants faire leur vie. Faut pas se mêler dans leur vie, faut pas les conseiller. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous êtes pas là. Il faut les laisser faire leur vie. Faut pas se mêler comme ça. Le résultat, elle est là. Un foyer qui va tomber à cause de qui? À cause de la famille, la sœur, le frère et la mère.
Oui, c'est malheureux, ça arrive assez souvent, mais encore une fois, c'est un argument qui ne peut pas être invoqué, ça, devant un tribunal. Hein.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Ratiba. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu parler et joindre Maître Serran ce matin que, de toute façon, ils peuvent vous appeler Maître Serran sur votre téléphone puisque vous répondez.
Absolument.
Hein, gracieusement.
Voilà, au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Alors, quand je dis gracieusement, Maître Serran, c'est avec grâce.
Oui, j'ai bien compris. Oui, évidemment, mais je crois que tout le monde aura compris ça.
Bien. Demain, l'imam Abdelali Mamoun qui sera là entre 10h et 11h pour l'islam au présent. On vous retrouvera donc la semaine prochaine, Maître Serran.
Avec plaisir.
La semaine va être longue sans vous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11h pour vos petites annonces de l'emploi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.